Si vraiment il cherche Dieu, ce petit mot, nous le lisons dans la règle de Saint Benoît, comme un chercheur de trésor, nous l'entendions dans la première lecture tirée des Proverbes. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu vient de nous dire Saint Paul dans la deuxième lecture. Comment parler de Saint Benoît, ce moine de la première moitié du VIe siècle et qui, grosso modo, a vécu au sud de Rome, mais dont les historiens ne savent, au fond, que relativement peu de choses. Comment évoquer ce Benoît qui, pourtant, à travers un modeste écrit, a accompagné, au fil de presque 15 siècles maintenant, non seulement d'innombrables moines et moniales de l'Occident, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, continue d'inspirer des hommes et des femmes qui vivent leurs multiples engagements dans le monde et qui sont impliqués intensément dans la vie sociale, culturelle et politique. Et qu'aurait-il dit cet abbé Benoît si discret si on lui avait dit qu'un jour un pape, Paul VI, en 1964, lui donnerait le titre glorieux de patron de l'Europe. Lui, Benoît, qui pourtant avait tout fait pour tout quitter, pour quitter un petit peu à la suite de l'évangile que nous venons d'entendre, sa famille, c'est-à-dire les milieux certainement aisés dont faisait partie sa famille et dont il était issu, pour ne chercher qu'une vie toute cachée aux yeux du monde, dans une retraite sévère, loin de toute aspiration à la renommée, à la richesse, au bien-être, au succès. De fait, n'avait-il pas justement interrompu brutalement ses études supérieures à Rome, aujourd'hui on dirait des études de littérature et de philosophie, parce qu'une autre aspiration, un désir tout autre, un désir complètement étranger au fonctionnement et aux convenances de ce monde, avait commencé à l'habiter et à dilater son cœur, à savoir ce désir ardent de vivre non sous le regard admiratif ou jaloux des humains, sous les regards qui jugent, valorisent, apprécient ou déprécient, mais sous le regard de celui seul voit le fond des cœurs et qui n'a besoin ni de jalouser ni d'admirer, mais dont le cœur paternel, plein de bonté, est toujours disposé à s'incliner vers le mésestimé et à embrasser d'un regard respectueux même celui qui, au regard des humains, est dépourvu d'intérêt et sans aucune attirance. Ce que cherche Benoît, c'est d'apprendre non la sagesse de ce monde, mais cette autre sagesse qui consiste à servir Dieu, ou, si vous me permettez cette traduction un petit peu libre, la sagesse d'apprendre à vivre dans l'amitié avec Dieu. C'est ce désir, le désir de vivre dans l'amitié divine révélée par la vie et les enseignements de Jésus-Christ. C'est bien l'aspiration à cette amitié qui amène Benoît à opter pour un style de vie dépourvu de tout confort, libre de tout éclat, de toute gloire. Et si un jour Benoît accepte la charge abbatiale, cette chose ardue et difficile, comme il dit, difficilem et arduam rem, et si même il se met un jour à rédiger lui-même une très petite règle, hanc minimum regulam, règle écrite modestement comme une simple introduction à la vie monastique pour des débutants, c'est toujours dans l'ardent souhait d'introduire d'autres, d'introduire des frères à cette amitié divine qui lui brûle et lui dilate le cœur. C'est toujours d'introduire d'autres dans ce qu'il appellera une école du service de Dieu. Il me semble que Benoît restera toujours ce chercheur spirituel, quelqu'un qui désire du fond de son cœur, avec une radicalité impressionnante, qui désire toujours d'accueillir et d'assimiler avec un cœur souple, docile, aussi bien la sagesse qui lui vient de la tradition biblique que celle que lui transmettent les grands auteurs spirituels qui l'ont précédé, un Basile le Grand, un Augustin et tant d'autres. Ainsi, avant d'être un maître qui enseigne et qui communique ainsi une vie, Benoît est lui-même disciple qui reçoit la vie. Et il me semble que même comme abbé encore déjà bien expérimenté, Benoît garde encore ce cœur de disciple, se montrant prêt à corriger, comme on dit, son propre tir, d'où sa capacité étonnante de compléter, voire de nuancer, des orientations formulées dans les années de son premier enthousiasme. Mais ce cœur de disciple, et je dois vous l'avouer, ce cœur qui m'est aimable, devra malgré tout encore intégrer un autre apprentissage, et un apprentissage de taille, si j'ose dire. Peut-être vous le devinez, il s'agit de ce moment, à mon avis importantissime, que nous ne connaissons que grâce à la plume d'un pape, à savoir du pape Grégoire le Grand, qui a vécu peu après Benoît. Je parle de ce moment où l'abbé Benoît, déjà bien rodé dans sa tâche d'abbé, est comme contraint à accepter, et Grégoire le montre, nullement sans résistance, un enseignement qui ne lui vient pas d'un grand maître spirituel reconnu par tous, d'un grand auteur connu de tous, ou de la Bible, mais de Scolastique, sa propre sœur et elle-même moniale. Car c'est bien grâce à la prière instante, intense de celle-ci. Et Grégoire le pape semble y insister avec toute son autorité de successeur de Pierre. C'est grâce à Scolastique, la future sainte Scolastique, que Benoît est amené à comprendre qu'aucun règlement monastique, si précis et si harmonieux qu'il soit, ne peut être porteur de vie s'il ne reste pas toujours, toujours ouvert aux surprises du souffle de Dieu, de cet Esprit de Dieu promis par le Christ ressuscité, cet Esprit qui voudrait habiter et remplir non seulement le cœur de tous les moines et de toutes les moniales, mais nos cœurs à nous tous, pour nous former à travers la longueur de toute une vie à un amour fraternel et filial de plus en plus sincère, à un amour fraternel qui se refuse fidèlement à toute mainmise sur autrui.